Vous êtes sur RTL.
Le journal, c'est avec vous, Jérôme Chapuis, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Le soulagement et la prudence. RTL a vécu les annonces concernant Ascoval aux côtés des ouvriers hier.
L'aciérie de Saint-Saulve ne fermera pas. Les 270 salariés respirent après de longues années d'incertitude. Une intrusion, oui. Une attaque, c'est beaucoup moins sûr. Les premiers éléments de l'enquête ne permettent pas de confirmer le tout premier scénario avancé par Christophe Castaner après les incidents à la Salpêtrière le 1er mai. Dans ce journal, la colère des familles françaises de djihadistes partis en Syrie, près de 150 enfants, âgés pour la plupart de moins de 6 ans, seraient en danger de mort, selon elle. Les conditions de vie se sont dégradées dans le camp où ils sont retenus. Et puis le football, objectif final. Corinne Diacre a dévoilé hier la liste des 23 joueuses pour le mondial de foot féminin qui débute dans un mois.
Et bien justement, ce sera votre surf, Cyprien Sini, bonjour.
Bonjour à tous. Ah, le suspense a été insoutenable. Il est enfin levé. On est complètement délivré, libéré.
Rendez-vous dans 13 minutes. Deux météo avant 7h, Marina.
À Haute-Rive, en Haute-Garonne, la matinée sera pluvieuse. Après-midi, plutôt sec, mais il restera très nuageux avec 17 degrés.
RTL Matin.
Et on commence donc par le soulagement des ouvriers d'Ascoval.
Cela fait 4 ans qu'ils sont ballottés de procédure en procédure. La scierie de Saint-Saulve dans le Nord a bien failli fermer. La décision rendue hier par la justice redonne de l'air aux 270 salariés. Pas de liquidation, mais une reprise par British Steel. Frank Hanson, vous étiez à leur côté hier. Pas d'excès d'enthousiasme, ces femmes et ces hommes ont appris à rester prudents.
Une délivrance, mais pas d'explosion de joie parmi ces sidérurgistes valenciennois qui ont l'impression de redémarrer à zéro. L'aciérie au ralenti depuis plusieurs mois doit retrouver de nouveaux clients. Avec l'État et la région en soutien, Gérard Glass, PDG de British Steel France, se veut rassurant.
On reprend tout le monde, tout à fait, les 270 personnes. On a suivi toute l'histoire d'Ascoval et on est content de contribuer à les garantir et les rassurer sur leur futur, évidemment. On a la capacité, nous, d'apporter la moitié déjà de la production full capacity de ce site, voire plus. Bien sûr que je crois en l'acier, en l'avenir de l'acier.
Usés par 4 années de lutte et de déconvenues, certains salariés ont déjà quitté l'entreprise. Les autres restent prudents, confirme Bruno Kobzinski, porte-parole de l'intersyndicale.
On reste un peu sur nos gardes. On sait que le combat n'est pas fini, on en est conscient. Il va falloir attirer les clients, il va falloir s'adapter à notre nouveau patron, s'adapter aux nouveaux produits. Faire du carré, c'est pas la même chose que faire du rond. Ça aurait été une hérésie de fermer cet outil, qui est une des plus belles. Enfin, elle est classée numéro 2 en Europe, quoi.
Le directeur du site espère retrouver ses pleines capacités, 600 000 tonnes de production d'ici 3 ans.
Frank Hanson, merci.
La première version du gouvernement sur l'intrusion à la Salpêtrière est mise à mal par les premiers éléments de l'enquête.
Et notamment par cette vidéo rendue publique en fin de matinée hier, filmée de l'intérieur du service de réanimation de l'hôpital. On y voit le personnel faire signe à des manifestants de ne pas entrer par cette porte vitrée. Sur ces images, pas de signe d'agressivité. Précisons qu'il ne s'agit que d'un seul point de vue. Il y a eu une autre intrusion par une autre entrée au cours de ce rassemblement du 1er mai. Mais pour l'heure donc, il n'y a pas d'éléments qui corroborent l'hypothèse d'une attaque. Attaque, c'est le mot employé par Christophe Castaner, ce qui vaut au ministre de l'Intérieur de très lourdes critiques ce matin. Éric Coquerel, par exemple, député de la France Insoumise.
Monsieur Castaner, manifestement, a voulu une fois de plus manipuler l'opinion. Et je pense qu'on devrait demander encore plus la démission de monsieur Castaner.
Et bonjour, Benjamin Sportouche.
Bonjour.
Le ministre de l'Intérieur semble au minimum avoir parlé trop vite avant d'avoir l'ensemble des éléments, mais il reste droit dans ses bottes.
Oui, en effet, qu'importent les vidéos, explique l'entourage de Christophe Castaner. Pour le ministère de l'Intérieur, elle n'invalide en rien le scénario d'une intrusion violente dans l'enceinte de l'hôpital. Le premier flic de France n'a donc rien exagéré, assure l'un de ses principaux collaborateurs. Et pour s'en convaincre, dit-il, il suffit d'écouter le témoignage de la directrice de l'établissement. Hors de question donc pour Christophe Castaner de revenir sur ses premières déclarations, de se dédire, et peu importe les critiques de l'opposition. À droite, le sénateur Bruno Retailleau estime qu'il est démenti par les faits et réclame des explications. À gauche, les Insoumis dénoncent un mensonge d'État. Christophe Castaner, qui se retrouve au cœur d'une polémique, une de plus depuis son arrivée place Beauvau en octobre dernier. Le saccage des Champs-Élysées notamment, mais aussi l'usage des lanceurs de balles de défense. Mais à chaque fois, il a conservé le soutien d'Emmanuel Macron.
Merci Benjamin Sportouche.
Ça fait partie des sujets dont on parlera avec Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et l'invité de RTL ce matin à 8h moins quart face à Yves Calvi. Italie.
Et il sera également question des européennes. Ça approche dans 3 semaines. Les partis ont jusqu'à ce soir, 18h, pour déposer leur liste. Il y aura 2 listes gilets jaunes. À propos du scrutin du 26 mai, notre baromètre RTL ce matin, 28% des Français voient dans la construction européenne un motif d'espoir. 28% seulement, le chiffre n'a jamais été aussi bas. C'est le pourcentage le plus bas d'Europe. Nous sommes même derrière les Britanniques, pourtant plongés en plein Brexit.
Une courte pause et un témoignage sur RTL. Les associations affirment que 150 enfants de djihadistes de nationalité française risquent de mourir en raison des violences et des épidémies actuellement dans les camps en Syrie. On y revient dans un instant. À tout de suite.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
La suite du journal de Jérôme Chapuis. Pour les associations qui les défendent, c'est une catastrophe humanitaire qui menace les enfants français en Syrie.
Les enfants de djihadistes regroupés dans le nord-est du pays, le camp d'Alol, il serait 150. Le gouvernement a surexaminé les dossiers au cas par cas, ce qui suscite la colère de Marie Dosé, avocate d'une vingtaine de familles françaises. Pour elle, il y a urgence.
Qu'est-ce que ça veut dire le cas par cas? Le cas par cas, c'est un fait du prince. Nous ne disposons même pas des critères. Et comment peut-il y avoir des critères sur des enfants qui n'ont rien fait, qui sont à 3/4 âgés de moins de 6 ans? Comment est-ce qu'on peut décider que toi tu seras sauvé mais pas toi? C'est complètement délirant, on ne peut pas laisser faire ça.
Ils sont arrivés alors qu'ils ont souffert de la famine, de la maladie, du froid et de la soif. Ils ont subi les assauts, les bombardements et ils sont donc arrivés dans ces camps dans un état psychiatrique terrifiant et dans un état physique alarmant. Dans ces camps, il n'y a pas de soins. Donc en fait, ces enfants arrivent dans un état d'épuisement total et sont exposés aux épidémies des camps. Choléra, la tuberculose, la dysenterie. C'est un drame humanitaire qui est cautionné par l'inertie des autorités françaises.
Marie Dosé, avocate de plusieurs familles de djihadistes français, propos recueillis pour RTL par Émilie Beaujard. Nouvel élément dans l'enquête sur le meurtre d'un adolescent de 15 ans avant-hier près de Douai. La mère de la victime affirme avoir reconnu un cousin parmi les assaillants. Ils ont sonné au domicile de la victime vers 21h. Il y a eu une bousculade, des gaz lacrymogènes, puis un coup de feu. Les meurtriers étaient au nombre de 3. Ils ont pris la fuite.
6h37 sur RTL. Les sports, le foot, c'est bien parti pour Arsenal en Ligue Europa.
Vainqueur à domicile de Valence 3-1 hier soir, notamment grâce à un doublé du français Alexandre Lacazette. Dans l'autre rencontre, Chelsea est allé faire match nul à Francfort, 1-1. On en est au stade des demi-finales. Une grande absente dans la liste des 23 joueuses retenues par Corinne Diacre pour le mondial féminin de foot qui débute dans un mois en France. Marie-Antoinette Katoto, meilleure buteuse du championnat avec le PSG, ne fera pas partie de l'effectif. Pour le reste, peu de surprises. On retrouvera notamment les Lyonnaises Wendy Renard ou Amandine Henry. La sélectionneuse assume les hautes ambitions fixées par le président de la fédération, Noël Le Graët.
Le président m'a fixé l'objectif d'aller en finale. C'est le contrat qui est établi entre lui et moi. Quand j'étais joueuse, j'en aurais rêvé. Donc aujourd'hui, je peux le faire en tant qu'entraîneur, donc je ne vais pas me priver. Je peux vous assurer que les joueuses ont également ce même objectif.
Corinne Diacre hier soir, propos recueillis pour RTL par Sylvain Charlet.
On y revient avec un sourire avec Cyprien Sini dans quelques secondes. Enfin, Windsor retient son souffle.
C'est tout près de ce château que Meghan Markle doit accoucher de son premier enfant dans les prochains jours. Un héritier de plus pour la couronne d'Angleterre, même s'il ne sera pas et de loin le premier dans l'ordre protocolaire. Le prince Harry et son épouse ont une résidence à quelques minutes de Windsor. Toute la ville est donc en effervescence. Les fans de la famille royale sont déjà là. Voici le reportage pour RTL de Marie Billon.
Windsor a toujours l'air en fête avec ses drapeaux, ses gardes royaux et bien sûr son château. Ces derniers jours, quelques fans sont venus l'égayer un peu plus avec leurs bannières accrochées aux barrières.
J'en ai deux. Une rose pour une fille, une bleue pour un garçon. Je ne devrais pas m'être trompé, sauf si ce sont des jumeaux.
Ce fan-là n'est pas très discret avec son châle autour de la taille sur lequel est imprimée une photo d'Harry et Meghan. D'autres sont plus incognito mais pas moins enthousiastes, comme cette américaine venue exprès de Los Angeles.
Je suis très excitée. C'est le premier enfant d'Harry et Meghan. 50-50. Les Américains sont maintenant dans la famille royale. Bien sûr que je suis contente.
Pendant qu'un crieur public annonce l'arrivée imminente du Royal Baby, la boutique de caramel mou au pied du château a ressorti les recettes de l'an dernier.
On a refait du caramel au goût de leur gâteau de mariage, citron et fleurs de sureau. Mais on va en faire un pour le bébé très bientôt. À la banane peut-être parce qu'on donne de la banane écrasée au bébé. Ce sera le même que ce soit une fille ou un garçon, donc en bleu et rose.
Les magasins de souvenirs, eux, ont remis en évidence les boîtes à thé et torchons affichant le visage radieux des futurs parents. Ils commanderont les assiettes commémoratives dès que le bébé sera né et qu'on saura son nom.
Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni.
Merci Jérôme Chapuis, vous revenez à 8h aux côtés d'Yves Calvi, à tout à l'heure.